Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h. Dans un instant, retour sur l'actualité de la semaine avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Et puis le débat de ce samedi, la justice républicaine en procès et si elle était aux ordres du pouvoir. C'est l'accusation, vous le savez, portée par Jean-Luc Mélenchon depuis des mois maintenant. Accusation reprise hier par le leader de la France Insoumise en sortant du tribunal de Bobigny. Et un mot anglais qui va sans doute bientôt entrer dans le dictionnaire, lawfare, autrement dit la guerre judiciaire. En est-on là? Justice politique, justice spectacle aussi. Quand on peut suivre les audiences à travers les chaînes d'info continue et en temps réel, sur les réseaux sociaux. Pour en débattre, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec une légende du barreau. Il a défendu des militants du FLN pendant la guerre d'Algérie, des militants de gauche dans les années 70 et il est le président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Rendez-vous avec maître Henri Leclerc dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a rien vu non plus, qu'il n'a rien écouté. L'année dernière, 350 000 entrées légales. Sur notre territoire, c'est la ville de Nice. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, à la fin de son mandat, 2 millions d'étrangers légalement seront entrés sur le territoire.
Marine Le Pen, mardi, elle répondait au président de la République et c'est le premier sujet que nous allons aborder dans le duel avec la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, qui sont surtout mes camarades du samedi. Bonjour les amis.
Bonjour.
Alors, bonjour. C'était donc Marine Le Pen qui nous emmène dans le vif du sujet, un sujet brûlant, un débat qui est peut-être piégé, on va en parler dans un instant. Le président de la République demandait en début de semaine aux députés La République en marche, je le cite, de regarder la question migratoire en face. Le Parlement doit débattre de la politique d'immigration dans quelques jours, débat sans vote. Débat piégé selon vous, puisque c'est une question que vous connaissez bien et sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, beaucoup écrit l'un et l'autre, Gilles.
D'abord, je crois que c'est un débat qui est légitime. Je ne pense pas qu'il faille se cacher derrière son petit doigt et pousser des cris d'orfraie dès qu'on parle d'immigration. Il y a beaucoup de questions bien plus subalternes que celles-là qui occupent le débat public. Et quand on regarde les préoccupations des Français, c'est pas la première préoccupation, mais c'est une des préoccupations. Et donc, il faut la traiter. Et je crois
9e selon une enquête publiée récemment
dans la grande enquête qu'on a sortie cette semaine avec Le Monde. Nous, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne, c'était la 4e préoccupation derrière l'environnement, derrière le pouvoir d'achat, derrière le système social, mais devant beaucoup d'autres. C'est une préoccupation, il faut en parler. Après, il faut bien en parler. Et ce que je regrette dans la manière dont Emmanuel Macron a posé ce débat-là, c'est qu'il l'a fait, je crois, au mauvais endroit, c'est-à-dire devant les députés, impliquant d'ailleurs derrière assez naturellement une lecture très politique de son intervention.
C'est aux représentants du peuple de s'emparer des grands débats.
Qu'il l'a fait avec le mauvais ton, c'est-à-dire avec des formules à l'emporte-pièce, et qu'il l'a fait avec de mauvais objets, c'est-à-dire des choses qui sont relativement marginales dans les débats sur l'immigration. En revanche, il faut en parler.
Natacha.
Il l'a surtout fait au mauvais moment. C'est-à-dire qu'on est dans un débat sur la réforme des retraites, qui est un débat important pour les Français, qui est un débat qui engage leur avenir et qui inquiète énormément de gens. Et tout à coup, on nous sort du chapeau ce débat sur l'immigration. Avec ce côté extrêmement, suiviste, c'est-à-dire que le prince dit « on va parler d'immigration » et hop, tout le monde ne parle plus que d'immigration, ce qui est profondément gênant. Et je pense que l'immigration, vous avez raison Gilles, mérite beaucoup mieux que cela.
Mais vous avez l'impression qu'on n'en parle pas assez. Il y a un an, les parlementaires débattaient de cette question. Ils ont même voté une loi il y a à peine un an, la loi Collomb sur l'asile et l'immigration. C'est pas un sujet tabou et ce n'est pas un sujet est absent du débat public.
Pardon Ali, mais quand vous dites ce n'est pas un sujet tabou, le fait même qu'il y ait systématiquement des hurlements et un scandale à chaque fois qu'on en parle, et souvenez-vous des débats autour de la loi Collomb, c'était des débats en effet tendus, prouve qu'il y a une difficulté à aborder sereinement et de façon posée un sujet qui pourtant devrait être abordé sereinement. Et c'est parce qu'on ne le fait pas sereinement que on renforce une machine à cliver de façon caricaturale. Mais je souhaiterais qu'on puisse en parler non pas pour dans un but politicien pour masquer d'autres réformes, mais qu'on puisse en parler parce que c'est un grand enjeu pour le pays et pour l'Europe.
J'ai voulu qu'on entende la réponse de Marine Le Pen, sa réaction à l'annonce du président de la République, parce que il y a comme une sorte de monopole de la question de l'immigration qui est revendiquée par le Front National ou le Rassemblement National depuis des décennies maintenant, et on se souvient de cette phrase qu'avait prononcée le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en 1991. Elle est restée dans les mémoires. Les Français préféreront toujours l'original à la copie. Est-ce que ce n'est pas l'un des risques et l'une des explications de ce piège tendu lorsqu'on aborde cette question, Gilles ?
Non, je crois qu'il faut. Je crois que le piège serait de ne pas en parler. Et donc, il faut en parler. La question, c'est comment on fait pour bien en parler ? Et moi, ma conviction, c'est qu'il faut partir de ce que sont les principes d'une politique d'immigration et essayer de trouver un consensus aussi large que possible sur ces principes.
C'est possible ?
Faut poser la question, c'est-à-dire comment peut-on rentrer légalement sur le territoire ? Il y a un certain nombre de conditions, soit que l'on est un demandeur d'asile parce que l'on est persécuté, soit que l'on a un conjoint ou une famille qu'on fait venir en France, c'est le regroupement familial, c'est le droit à une vie familiale normale, ouais. Soit que l'on est un salarié et qu'il y a un secteur en tension, soit qu'on est un étudiant et ça participe au rayonnement de la France. Si on est d'accord sur ces principes-là, il y a quatre conditions d'entrée. Après, on peut regarder les conditions, la mise en œuvre. Mais si on est d'accord là-dessus, ça veut dire qu'il y aura des entrées sur le territoire français. Pas les 350 000, le chiffre d'ailleurs est faux, mais il y aura 150 000, 200 000 entrées nettes par an.
Natacha, vous pensez qu'on peut être rationnel comme les Gilles Finkelstein ou est-ce que c'est une question qui engage nécessairement des passions et des convictions ?
Je pense qu'on doit faire l'effort d'être rationnel. Je vais vous dire, je dirige un journal, Marianne, qui a été fondé en 97 par Jean-François Kahn, parce qu'il voulait qu'on puisse poser ces sujets-là sans en laisser le monopole au Front National. Et à l'époque d'ailleurs, quand il a dit qu'il allait appeler son journal Marianne et qu'il allait mettre donc la liberté guidant le peuple avec un drapeau français, on lui a dit « Ah, tu veux faire un journal frontiste, tu veux faire un journal d'extrême droite ». Et encore maintenant, à chaque fois que nous titrons sur l'immigration, il y a des mouvements sur les réseaux sociaux, d'abord de certains confrères journalistes, « Ah, ça y est, Marianne vire à l'extrême droite ». Comme quoi, il est absolument impossible de poser ce débat. Donc, Gilles a raison, il faut le faire rationnellement, en tenant compte du fait qu'il y a des entrées sur le territoire français, qu'il y a des voies légales, et qu'il appartient évidemment au peuple souverain de décider exactement comment tout cela se passe, mais sachant qu'il y a un devoir premier, qui est un devoir fondamental et qui doit être préservé, c'est la question de l'asile. Mais simplement, pour préserver ce droit d'asile qui est essentiel, il faut que la légalité soit respectée. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les déboutés du droit d'asile, il y en a moins de 10% qui sont reconduits à la frontière, et ça participe de cette peur qui consiste à dire « mais ceux qui rentrent sur le territoire, on ne peut pas contrôler parce qu'ils n'en sortent jamais ». Il faut, je pense, faire attention à ne pas justement nourrir les fantasmes en ne faisant pas respecter la règle, qui est la règle commune.
D'un mot, Gilles, c'est possible ?
Oui, convergence partielle, peut-être inattendue avec Natacha sur ce point-là. S'il y a des conditions d'entrée légales, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en situation illégale, il y a des contrôles aux frontières européennes, et quand on rentre illégalement en France, qu'on soit débouté du droit d'asile ou d'une autre manière, on a vocation à être reconduit. C'est plus facile à dire qu'à faire, oui. Mais il faut aussi assumer ça si on veut avoir une politique généreuse.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Il faut se regrouper. L'urgence est telle que maintenant, les petits gestes du quotidien ne suffisent plus et qu'il faut faire réagir les personnes qui peuvent prendre des décisions pour qu'il y ait une réaction importante, parce qu'on n'a plus le temps.
C'était la voix d'un jeune homme qui défilait hier pour le climat dans la ville d'Avignon. Nous savons, Natacha, que vous n'aimez pas que les lycéens et que les collégiens sèchent les cours pour aller manifester. Mais nous sommes le week-end et vous l'entendiez dans les journaux d'Inter. Il y a un appel à défiler pour alerter de nouveau sur les dangers du réchauffement climatique. On est le week-end, donc ça va. Il y a pile un an, Greta Thunberg était assise. Elle était seule. L'image est assez frappante. La photo circule sur les réseaux. Elle est assise seule devant le Parlement suédois à Stockholm. Aujourd'hui, des millions de personnes à travers le monde rejoignent ou répondent à son appel. Est-ce que vous diriez que la prise de conscience de l'accélération du réchauffement climatique est quelque chose d'acquis, du moins en Europe, Natacha ?
Je pense que c'est acquis parce que les conditions nous forcent à le regarder en face. Enfin, vous regardez l'état de sécheresse dans certaines régions françaises, c'est absolument tragique. C'est-à-dire que le climat est en train de changer à une échelle bien plus rapide, en fait, que ce qu'on pensait. Et c'est, il faut bien avoir conscience de ce que ça va modifier.
Des paysages entiers qui changent. L'Allier, qui est une terre verte et brûlée par la sécheresse,
bien
par
sûr.
Exemple.
Du coup, la végétation change, donc le type d'alimentation doit changer, la façon dont on organise l'ensemble de l'agriculture doit changer. Donc le sujet nous saute à la figure, et heureusement. Après, encore une fois, la question est de savoir comment on traite politiquement cela. C'est-à-dire que ce qui me gêne, c'est cette dimension d'émotion permanente qui fait oublier qu'il y a des arbitrages à mener et que ces arbitrages nécessitent un certain courage politique. Donc évidemment, qu'on force un gouvernement à agir, oui, qu'on prenne conscience des différents arbitrages, et j'aimerais bien que, par exemple, tous les jeunes gens qui défilent comprennent que le numérique est un facteur de réchauffement climatique absolument épouvantable, et que donc il va falloir aussi réfléchir à la façon dont nous organisons les technologies numériques. Et puis, je pense que derrière cette émotion, je n'aime pas non plus ce discours très facile qui consiste à dire « Regardez, ce sont les enfants qui donnent des leçons aux adultes. » D'abord pas aux adultes, parce qu'il y a des adultes, pardon, qui sont conscients qu'il y a des choses à faire et qui essayent de le penser politiquement.
Là, vous parlez de vous, Natacha.
Non, pas de moi, parce qu'il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça. Et d'ailleurs, de façon contradictoire, avec des solutions différentes, ça s'appelle la politique.
D'ailleurs, j'aimerais bien, Gilles, que vous nous disiez si les collégiens et les lycéens ne votent pas par définition. Mais est-ce qu'ils influencent leurs parents ?
Sans aucun doute. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Sur les comportements individuels, sans doute. Ce qui est certain, c'est que la prise de conscience s'étend. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'elle s'étend dans les têtes. Ce n'est plus seulement la préoccupation de bobos urbains, diplômés et fortunés.
Vous le disiez, c'est l'une des principales préoccupations des Français aujourd'hui, par exemple.
Oui, ça s'est diffusé comme une tache d'huile à l'ensemble de la population, à des niveaux différents, mais de manière très importante partout. Ça s'étend dans les têtes et ça s'étend dans les rues. Manifestation mondiale aujourd'hui, pas seulement des lycéens et des jeunes, aussi des salariés qui, 70 organisations syndicales qui rejoignent le mouvement, un certain nombre d'entreprises parmi les plus symboliques comme Amazon, dont les salariés se mettent en grève par rapport à l'empreinte numérique de leur entreprise.
250 000 Donc, personnes ont défilé hier à New York par exemple, 270 000 à Berlin, 100 000 à Londres, beaucoup moins en France. Comment expliquer ce décalage-là, Natacha ?
Alors, je n'ai pas d'explication précise sur ce décalage. Ce que je peux dire, c'est que j'aimerais surtout qu'on réfléchisse à la façon dont les grands flux mondiaux ont une empreinte, sont la plus forte empreinte sur la planète. C'est-à-dire que les petits gestes du quotidien, c'est très sympathique et c'est important. Et en effet, chacun doit agir. Mais la théorie du colibri, elle est charmante, mais elle ne doit pas...
Rappelez-nous ce qu'est la théorie du colibri.
C'est-à-dire, c'est la fameuse théorie de Pierre Rabhi. Donc la forêt brûle, le petit colibri met sa goutte d'eau et tout le monde se moque de lui et il dit oui, mais au moins j'ai fait ma part. Oui, d'accord, c'est très bien de faire sa part. Ensuite, il y a des choix qui consistent à savoir, par exemple, comment on modifie suffisamment l'agriculture pour que l'agriculture française ne soit pas dépendante du soja OGM brésilien. Parce que même si on nous explique que dans un traité de libre-échange, on exclut les produits liés à la déforestation, en fait, notre structure agricole incite à la déforestation au Brésil. Donc après, on peut expliquer que Bolsonaro est méchant, ça ne change rien. C'est notre agriculture qui fonctionne comme ça.
Gilles Finkelstein.
Il y a eu cette semaine un rapport très intéressant qui a été fait par le CNRS, coordonné notamment par le CNRS, le CEA et Météo France, qui doit préparer aux travaux du GIEC de la semaine prochaine, qui montrait à la fois une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que la situation s'aggravait plus rapidement que prévu et qu'il y avait même un scénario dans lequel on avait plus de 7 degrés d'élévation de la température à horizon de 2100.
Oui.
Mais aussi, deux bonnes nouvelles dans cette semaine. Ce que montre aussi ce rapport, c'est qu'il est possible d'agir. C'est-à-dire que selon les choix qui sont collectivement faits, eh ben, l'augmentation de la température moyenne, elle va de 2 à 7 degrés.
Mais vous en êtes sûr ? Parce que Natacha soulevait un problème fondamental. L'accès à Internet, par exemple, l'utilisation d'Internet, le fait de regarder de la vidéo en streaming, c'est un facteur terrible et l'un des facteurs majeurs aujourd'hui dans l'accélération du réchauffement climatique. Il est sans doute plus simple d'arrêter d'importer du soja déjà brésilien que d'arrêter de regarder des séries sur Internet, non ?
Oui, c'est possible, mais prenons
comment
l'exemple.
Comment ça, c'est possible ?
C'est possible que ce soit plus facile. Mais je suis pas sûr que ce soit si facile que ça d'arrêter les importations. Donc, tout est difficile. Bon, mais prenons l'exemple du secteur aérien. Il y avait une interview du nouveau président d'Airbus, Guillaume Faury, dans les Échos de cette semaine, dans laquelle il rappelait que le poids de l'empreinte carbone du secteur aérien par rapport au numérique était bien inférieur, c'est 2% du total, mais c'est quand même 2%, et que plutôt que d'arrêter l'avion, eux sont en train de travailler avec des très gros investissements pour rendre l'aviation neutre en carbone dans un horizon 2050 avec des nouveaux avions dès 2035. C'est domaine par domaine ce travail-là qu'il faut faire, avec peut-être une autre bonne nouvelle, étude de l'OCDE de cette semaine. Pour réussir la transition écologique, il est déterminant que les pays riches soutiennent les pays les plus pauvres dans la transition. Il y avait un objectif 100 milliards de dollars d'aide des pays riches en 2021. On est sur la bonne pente, on est à 72 milliards, donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles.
Est-ce que je me trompe si j'entends dans votre discours, Gilles, le discours d'un progressiste qui croit que les progrès de la science permettront de diminuer les facteurs qui accélèrent le réchauffement climatique, et que vous, Natacha, vous êtes plutôt dans l'idée de la sobriété, de la production locale?
Je pense qu'il faut les deux.
Me concernant, vous vous trompez. Je ne crois pas. Je crois au progrès de la science. J'espère que des découvertes sur la captation du carbone, sur beaucoup de choses, peuvent être accomplies dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Je suis convaincu que de toute manière, ce n'est pas suffisant et qu'il faudra remettre en cause de manière profonde nos modes de production et nos modes de consommation.
Vous restez quand même progressiste ?
Je le crois.
Natacha ?
Regardez par exemple, qu'appelle-t-on la science ? L'agroécologie, par exemple, qui permet de ne pas massacrer les sols. Mais c'est extrêmement scientifique, c'est pas de la régression. Ça s'appuie sur les dernières recherches sur la façon dont justement le sol réagit en fonction de ce que vous mettez dessus, du fait qu'il ne faut surtout pas labourer. Enfin, donc la science nous permet de trouver des solutions du moment que c'est une science qui n'est pas dans l'idéologie de la technique, qui n'est pas un culte du progrès pour le progrès. C'est-à-dire que la science doit être utilisée dans un but qui est celui que nous avons choisi collectivement et qui va nous apporter un meilleur un bien-être. Mais je crois en effet que ça passe par la relocalisation de l'économie, par les circuits courts. C'est la seule solution pour arrêter des flux qui sont destructeurs.
Le grand face-à-face sur France Inter.
J'ai demandé l'asile en France en 2013. J'aimerais beaucoup que M. Macron m'accorde le droit d'asile. Accueillir quelqu'un comme moi, c'est pas une attaque contre les États-Unis. C'est une main tendue vers tous les alliés qui ne sont pas au niveau de leurs valeurs.
C'était lundi matin au micro de France Inter, interview passionnante d'Edward Snowden qui demandait de nouveau l'asile à la France, demande de nouveau rejetée. Est-ce que vous comprenez pourquoi, Gilles ?
D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Snowden, lanceur d'alerte sans doute le plus connu du monde, qui...
Ancien de la CIA, ancien de la NSA, il a révélé au grand public les détails de plusieurs programmes de surveillance que menaient les agences de renseignement américaines et britanniques, et il vit en exil maintenant en Russie depuis 3 ans.
Voilà, et programme de surveillance qui touchait évidemment y compris les pays européens, y compris les dirigeants européens, y compris Angela Merkel et quelques autres. Bon, sur le plan symbolique, évidemment, je crois qu'il n'y a aucun doute que ce serait souhaitable, que ce serait formidable que la France accorde l'asile. Sur le plan juridique, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, mais c'est possible. Normalement, il faut être sur le territoire français pour demander l'asile. Il suffirait qu'il obtienne un visa, que le gouvernement français lui accorde un visa, que l'OFPRA examine si les conditions sont requises. Il est probable que tel soit le cas.
Mais là, c'est l'exécutif qui décide.
Sur le plan diplomatique, c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que, à l'évidence, ça serait compris comme un acte d'agression vis-à-vis des États-Unis. Ce à quoi il faudrait ajouter que, sur le plan de la coopération entre les services de renseignement, ça ne nous met pas non plus dans une position qui est très facile. Comment c'est la vie après ? La gestion de la politique, c'est ça, c'est parfois d'arbitrer entre ses intérêts et ses valeurs.
Donc il faudrait l'accueillir, mais on ne peut pas.
Pas du tout. Ma conclusion, c'est que sur ce point-là, quand on doit arbitrer entre ses intérêts et ses valeurs, en l'occurrence, je pense qu'il faut le faire pour les valeurs et qu'il faut l'accueillir, parce que je crois qu'il n'y a pas que Donald Trump ne comprend pas grand chose d'autre que le rapport de force et qu'il ne respecte que les forts, et donc je crois qu'il faut le faire.
Natacha Polony.
Je pense qu'il faut se souvenir de l'absence totale de réaction à l'époque quand on a appris que Angela Merkel était écoutée, que des dirigeants français étaient écoutés. C'est passé comme une lettre à la poste.
Par les services de renseignement américains.
Ça aurait été les Russes, vous imaginez un peu le branle-bas de combat. Là, c'était les Américains, donc c'était acceptable. Eh bien, ça nous raconte la position des pays européens vis-à-vis des États-Unis, et on comprend donc pourquoi Snowden est dans cette situation depuis tant de temps. Alors, je rejoins Gilles sur le fait que, en effet, il y a des arbitrages qui sont des arbitrages complexes.
Il faudrait l'accueillir.
Rien n'est simple. Que Snowden a sans doute eu un parcours qui est lié au fait qu'il essayait d'apporter ces informations et que, évidemment, tout le monde prenait ça avec des pincettes. Pour autant, je pense en effet qu'il est temps aujourd'hui de mettre en place une politique, une diplomatie indépendante, et que cette diplomatie indépendante passe par des symboles, en effet, et que le symbole qui consiste à accueillir Snowden, c'est aussi une façon de dire que nous ne sommes pas dans la féodalité, que nous ne sommes pas soumis et que nous arbitrons en fonction. Et je pense que
mais
ça
relèverait.
C'est intéressant
de voir que François Hollande et Emmanuel Macron ont pris la même décision.
Oui, mais ça ne m'étonne qu'à moitié, même si Emmanuel Macron n'a pas exactement la même position que François Hollande vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Russie. Pour autant, au pied du mur, on voit bien qu'il ne va pas aussi loin qu'on pourrait l'attendre. Simplement, je pense que ce n'est pas seulement une question de valeur, ce serait aussi une question d'intérêt, non pas des intérêts immédiats, mais des intérêts à long terme sur l'indépendance des pays européens.
Et c'est très compliqué. Dans cette interview, il conseillait aux Français d'éviter d'utiliser WhatsApp, mais je me demande comment nous pourrions continuer à communiquer tous les trois et avec l'équipe du Grand Face-à-Face. Par exemple, on y aurait trouvé d'autres solutions.
Je suis pas sûr que même si les États-Unis ou d'autres écoutaient et regardaient ce que nous communiquons sur WhatsApp, c'est... en l'espèce, qu'il y ait un grand danger. Mais
non, je pense que nous ne sommes pas concernés. Mais quand
secret.
On sait que le gouvernement, qu'Edouard Philippe utilise WhatsApp, là, en revanche, c'est pas exactement la même position.
À suivre dans le Grand Face à Face, le débat.
France Inter. Le Grand Face à Face. Le débat.
Il y a donc bien une source politique, une méthode politique et à la fin un procès politique perdu par Madame Belloubet et ses séides, puisque tout ce qu'il leur reste à demander, c'est de la prison avec sursis après un large arrosage d'argent sur tous ceux qui viennent dans ce prétoire pour l'unique raison d'en demander. Alors moi j'estime que sur le plan moral, notre victoire est totale.
La justice est-elle aux ordres du pouvoir? C'est l'accusation portée par Jean-Luc Mélenchon depuis des mois maintenant. Accusation reprise hier par le leader de la France Insoumise en sortant du tribunal de Bobigny. Pour en débattre avec nous de cette justice politique, est-ce qu'elle existe en France? De la justice spectacle également, celle-ci on peut être assuré qu'elle est bien présente. Pour en débattre, une légende du barreau, il a connu justement la justice politique quand il a défendu des militants du FLN pendant la guerre d'Algérie, mais aussi des membres de l'OAS, des gauchistes dans les années 70. Il s'est souvent lui aussi inspiré dans ses plaidoiries des révolutionnaires français. Cela fait plus de 60 ans maintenant qu'il est avocat. Henri Leclerc est notre invité ce samedi. Bonjour maître.
Bonjour.
Et bienvenue. Justice politique, justice d'exception, vous connaissez bien le sujet. Est-ce que l'accusation forte portée par Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis vous convainc?
Écoutez, toute ma vie, j'ai travaillé avec ce problème, parce que j'ai eu beaucoup d'affaires politiques, dans lesquelles j'étais plutôt engagé. Vous avez parlé de l'OAS, c'est une affaire dans laquelle j'avais été commis d'office et que j'avais accepté. Mais
oui.
C'est vrai que j'ai
pour
plutôt quand même défendu des gens qui avaient
des
opinions, qui sans être les miennes, qui pouvaient être différentes, mais enfin, qui ne heurtaient pas trop les miennes. Bon,
et vous êtes président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.
Voilà. Ceci étant... D'abord, le soupçon n'est pas nouveau. Le soupçon a plusieurs siècles d'histoire de la justice. Quand on le regarde, contentons-nous du 19e siècle et du 20e siècle, l'histoire est celle d'un soupçon permanent d'une politisation de la justice. Est-ce que cela existe aujourd'hui? Alors, j'ai pas retrouvé malheureusement un grand article que j'avais écrit dans une revue en 1970 sur ce sujet. Mais je ne l'ai pas retrouvé. C'est des choses qui arrivent.
Mais vous vous souvenez de ce que vous aviez écrit?
Je me souviens de ce que je disais. Je disais, au fond, je ne suis pas sûr que les juges reçoivent des ordres. Le problème, c'est qu'ils sont d'accord avec le pouvoir. C'est-à-dire que ce que j'expliquais, c'était que le recrutement des juges, leur conception générale, les rapprochait d'un pouvoir qui, à l'époque, était un pouvoir, je dirais, modéré, on appelait ça, mais enfin, un pouvoir de droite, quel qu'il soit. Bon. Et c'est vrai que dans un certain nombre d'affaires, j'ai été avocat de syndicat, c'est vrai qu'on se heurtait toujours à une conception des juges qui était celle d'une lecture de la loi. Je ne dis pas qu'ils faisaient des choses illégales, mais d'une lecture de la loi qui était conforme à celle de ceux qui étaient au pouvoir. Et évidemment, immédiatement, l'accusation vient, mais il y avait déjà beaucoup de contradictions. Je me souviens, justement, dans ces années, c'est peut-être à cette occasion que j'avais écrit l'article, un ministre avait traité les juges de lâches. Et tout le monde avait manifesté, avait dit, c'est ce que... parce qu'il punissait pas assez sévèrement les gauchistes. Et bon... La vérité, c'est de savoir ce qu'il en est aujourd'hui. Ne refaisons pas l'histoire. Les juges ont changé, d'abord, très profondément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se recrutent un peu partout dans la société, avec des îlots qui sont celui du syndicat de la magistrature, avec les modérés qui sont l'Union fédérale des magistrats, avec la droite qui est FO magistrat, etc. Bon. Je pense que c'est normal que les juges aient des conceptions personnelles, et même qu'ils se réunissent,
Il reste bien. Des hommes.
Mais il reste des hommes. Est-ce qu'ils reçoivent des ordres directs du pouvoir? D'abord...
C'est illégal.
Depuis 1993, depuis la loi Taubira de 2013, c'est formellement interdit.
La ministre de la, ou le ministre de la Justice n'a pas le droit de donner des instructions dans des affaires individuelles.
Alors, elle donne des instructions. Il donne normalement, Madame Belloubet donne normalement des instructions sur la politique pénale, sur les conceptions, dit au parquet par exemple, il faut essayer d'obtenir une répression plus forte de la part des juges pour les accidents de la route ou pour, pour le trafic de stupéfiants, bon, bien. Mais elle n'a pas le droit de donner d'instructions dans les affaires individuelles. Mais il reste néanmoins des soupçons.
Oui.
Ne serait-ce que parce que le lien existe, parce qu'elle est quand même chef du parquet. Et que le problème très difficile, compliqué de notre justice, ça tient à l'héritage de l'Ancien Régime et surtout à celui de Napoléon, c'est le manque de définition du parquet. Le problème, c'est que vous avez des juges, ils peuvent être soit les juges du siège, indépendants et impartiaux, soit le parquet, qui dit être indépendant et impartial, mais en fait la Cour européenne des droits de l'homme ne s'y trompe pas, puisqu'elle dit le parquet ne peut pas être une autorité judiciaire, puisqu'il a pour chef le ministre de la Justice. Et là, nous avons une contradiction. Et vous avez vu qu'il était complètement impossible de réformer la Constitution. Pourtant, il y a un projet sur ce sujet.
Oui.
Pas moyen. Pas moyen. Elle passera pas, cette réforme de la Constitution. C'est très intéressant de le constater. Elle est renvoyée sans cesse. Bon. Est-ce qu'il y a des ordres individuels? Alors, le problème de ce lien... Regardez, il va se passer quelque chose de très pénible. Monsieur Urvoas, qui a été ministre de la Justice et qui est un homme... Qui avait vraiment une réputation très honorable d'homme politique intègre et compétent. Moi, je l'ai vu, je l'ai connu. Ben, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Dans une affaire, il a le droit d'être informé des affaires. Il n'a pas le droit de donner d'ordre, mais il a le droit d'être informé.
Oui.
Et il s'est servi de cette information pour informer un justiciable. Bon, ça... Alors, je ne sais pas ce qu'il en résultera, puisqu'il va être jugé par cette juridiction absurde qui est la Cour de justice de la République, qu'on n'arrive pas à supprimer non plus. On continue à avoir cette absurdité dans les pattes.
Donc, en théorie, il n'y a pas de justice politique, mais Jean-Luc Mélenchon a peut-être raison.
Non.
Non.
Écoutez, je ne pense pas qu'il ait raison sur ce sujet-là.
Non, Jean-Luc Mélenchon, disons, instrumentalise un débat qui est un débat qu'ont les citoyens, des questionnements, etc. Et il en fait quelque chose d'assez effarant en se plaçant sur le même plan que des prisonniers politiques authentiques dans d'autres pays. En revanche, la question qui se pose, c'est quand on a des cas comme par exemple celui de Richard Ferrand avec... Brest, où le non-lieu est accordé, et finalement une interprétation autre. C'est-à-dire qu'il y a là, pour le citoyen, je pense, quelque chose qui ne permet pas de comprendre exactement comment le droit va être interprété et s'il y a, dans certains endroits, peut-être pour une raison de proximité, un choix d'apaisement, alors qu'une autre cour aurait décidé qu'il fallait au contraire aller au bout.
Maître Henri Leclerc.
D'abord, les cours peuvent juger dans des sens différents. Ça arrive, c'est pour ça qu'il y a des cours d'appel. C'est vrai. Bon. Deuxièmement, la preuve récente d'ordre direct sur les juridictions, l'acquittement de Patapi n'est pas un acquittement souhaité par le pouvoir, je ne le crois pas.
Non, bon. Non, bien sûr.
Et il est évident qu'il y a quand même une justice qui peut manifester des signes d'indépendance. Regardez, par exemple, le fameux jugement de Lyon.
Où
le tribunal a fait l'application de l'état de nécessité pour des gens qui avaient pris les photos de Monsieur Macron en les portant à l'envers et en disant qu'ils allaient les rendre.
Oui.
Bon, comme geste politique. Alors, c'est très intéressant. Là, qu'est-ce que vous voulez? C'est les juges qui ont pris cette décision. C'est pas le pouvoir.
Mais ça pose un problème autre.
Pardon. Cette affaire de Lyon, elle pose un problème autre, et j'aimerais bien avoir votre vision de ça.
C'est très important.
Le problème que ça pose, c'est un problème démocratique. C'est-à-dire que si le juge décide qu'il peut, en fonction de ses convictions et au nom d'une cause qui est parfaitement juste, qui est la cause écologique, décider qu'il ne va pas juger exactement en droit, ou plutôt qu'il va interpréter, voire surinterpréter le droit parce que la cause serait juste, est-ce qu'il reste dans son rôle ou pas?
C'est très intéressant. Parce que le juge, il juge en fonction d'une conception qu'il a de la justice. On pourra en parler tout à l'heure pour savoir ce qu'est la justice, oui, parce que c'est difficile aussi. Mais il juge en fonction de ça. Ce qui est très intéressant dans cette affaire de Lyon, c'est qu'il se passe exactement ce qui s'est passé en 1898. Il y a eu un scandale national beaucoup plus fort que celui de là, et qui a pris une importance considérable parce que Clémenceau a pris le parti du juge. C'est une affaire dont on parle, qu'on cite toujours, mais on dit ça c'est normal aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a eu des interpellations à la Chambre, etc. Il y a un juge qui s'appelait le juge Magnot, à Château-Thierry, qui a jugé une femme qui avait volé un pain pour nourrir son enfant. Et il l'a relaxé. Il l'a relaxé en disant c'est un état de nécessité, ça n'existait pas à l'époque, il l'a pratiquement inventé, il a inventé du droit pour faire cela. Il y a eu une bagarre terrible, finalement d'ailleurs, il a rendu d'autres décisions très intéressantes sur le droit des femmes, mais n'en parlons pas, et finalement il a été député d'ailleurs. Ce juge a été élu député de Paris, poussé par Clémenceau, parce qu'il avait fait un acte extraordinaire. C'était un acte politique, c'était donc ça revient. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire, oui, mais ça c'est valable parce que c'était une pauvre femme.
C'est un acte noble.
Il n'y a pas de nécessité pour ça. Bon, ça c'est l'interprétation du jeu. Il y a des cours d'appel, une cour de cassation, tout ça c'est les principes, et qu'un juge de première instance fasse cette interprétation, soit l'état de nécessité, moi. Je l'ai vainement plaidé quand j'ai plaidé pour José Bové sur le démontage du McDo.
Sûr, oui.
J'avais plaidé la même chose. Je ne faisais pas beaucoup d'illusions. J'avais raison. Mais ceux qui ont plaidé l'état de nécessité à Lyon se faisaient des illusions. Ils avaient raison. Moi, j'avais... Bon, c'est comme ça. Donc, c'est un moyen de droit qui existe. Ça veut dire que c'est vrai. Ça part peut-être en face d'une lecture de la loi. Mais quelle est l'obligation du juge sur le plan politique ? L'obligation du juge sur le plan politique, c'est d'abord de ne pas juger sur les ordres du pouvoir. Ça, il est évident que c'est la faute majeure, faute du pouvoir, faute du juge.
D'accord.
Le pouvoir exécutif... Par contre, il a à juger sur les ordres du pouvoir législatif. C'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Montesquieu que le pouvoir judiciaire, la puissance judiciaire, était quasiment nulle, disait Montesquieu. Parce que et qu'est-ce qu'il avait le juge ? Il était obligé d'obéir à la loi. Bon, alors... Et bien sûr, mais le juge, il interprète la loi. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est ce qui est interdit sur les principes fondamentaux. Il n'a pas le droit de condamner pour quelque chose qui n'est pas défendu. Il n'a pas le droit de ne pas respecter les formes. Et puis ou de ne pas respecter la présomption d'innocence. Mais il a une obligation qui est une obligation proportionnelle, dirait-on en droit modèle, très compliquée. C'est de ne condamner qu'à des peines strictement et évidemment nécessaire. Or, nous savons que notre échelle des peines est très large. Prenons Mélenchon. Oui. Il risquait 10 ans. Enfin, personne n'a pensé un instant qu'un procureur de la République réclamerait même de la prison ferme dans une affaire comme celle-là. Donc, le pouvoir des juges est considérable. Ce qui est vrai, c'est que les juges auraient pu le condamner à 10 ans. Bon.
Alors, on ne sait pas d'ailleurs quel sera le jugement final. Pour le moment, on a juste les réquisitions.
Je crois dans cette affaire que ça pose un autre problème. Cette affaire est une affaire d'initiative des magistrats, d'initiative des juges. D'autant plus, vous le savez, qu'un magistrat a été molesté. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans ce dossier, c'est que le procès public a un avantage. La France entière va juger cette affaire, puisque tout le monde a vu les images. Tout le monde sait, il y aurait un vrai débat. Pourquoi on juge Mélenchon? Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui protestent contre la légèreté des peines qui ont été déposées contre lui. Donc, c'est quand même une justice qui existe. En tout cas, je ne crois pas du tout que Mme Belloubet ait donné des ordres et ait commis cette infraction.
Gilles Finkelstein.
Alors, on reviendra sans doute sur le Mélenchon lui-même, mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début. Que la France ait une relation compliquée avec sa justice dans son histoire, il n'y a aucun doute là-dessus. On est une nation qui s'est construite davantage par le politique que par le juridique, et on a tenu aux confins le pouvoir judiciaire depuis longtemps. Dans la période récente, les choses ont quand même, non seulement les juges ont changé, comme vous l'avez dit, mais les règles ont profondément changé. Vous l'avez évoqué vous-même, à la fois la composition du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi ses pouvoirs ne sont plus les mêmes, les liens avec le garde des Sceaux ne sont plus les mêmes, l'interdiction de toute instruction sur les affaires individuelles change radicalement les choses. Et donc, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la justice est indépendante. Est-ce que c'est parfait? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? C'est la question. C'est la question sur le lien du parquet, sur le juge judiciaire. C'est vrai sur le juge constitutionnel aussi, dans lequel il y a, par rapport à d'autres pays, des responsables politiques, d'anciens présidents de la République qui en font partie. C'est vrai
ça, c'est pas obligatoire, mais c'est comme ça que ça se fait.
Mais ce n'est pas obligatoire.
Ça aurait pu être autre chose. Bon, mais ça, c'est des choix qui ont été faits.
Et c'est vrai aussi sur la Cour de justice de la République que vous avez évoquée.
Qui est une aberration.
Bon, qui est une aberration. Sur la Cour de justice, sur le juge constitutionnel, sur le parquet, il y a depuis 20 ans des projets de révision constitutionnelle. Vous avez dit, ils ne passeront pas. Ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'ils ne passeront pas parce qu'il y a une forme d'hypocrisie derrière un consensus apparent sur la réforme de ces questions, ou parce qu'il y a dans le paquet des réformes constitutionnelles d'autres sujets qui empêchent celui-ci d'aboutir ?
Henri Leclerc.
Pour les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'autres projets dans les réformes constitutionnelles qui préoccupent et sur lesquels il n'y a pas une position claire. Et puis qu'il y a d'autres demandes de réformes constitutionnelles. Il y a aussi des problèmes de majorité qui ne sont pas difficiles. Il y a aussi le souci de ne pas diviser la majorité présidentielle dont on sait bien à quel point elle a des fragilités. Il y a beaucoup de choses. Sur la justice, il y a un défaut de clarté sur la réforme très difficile qu'il faut apprendre. Je pense en définitive que notre système judiciaire, tel qu'il a été mis en place par Napoléon, parce que c'est ça, et qui a été battu d'ailleurs à l'époque, et il avait été battu sur un seul point, c'est le jury populaire en matière criminelle. Et celui-là, je pense qu'on est en train d'avoir commencé la liquidation du jury populaire, ce que je déplore évidemment. Mais pour le reste, on a ce système avec un parquet tout puissant qui est maître des poursuites.
Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas le premier à utiliser cette stratégie de défense. Très régulièrement, lorsque des politiques sont traduits devant la justice, mis en examen, ou que sais-je, il hurle à la manipulation politique et à la soumission au pouvoir.
Mais je vais
c'est
dire,
une stratégie de défense
les
efficace,
autres,
d'ailleurs,
les ou pas? Les autres font pareil. Les autres font pareil. Monsieur Fillon dit que c'est des ordres qui ont été donnés de fixer son procès quelques jours
juste avant les municipales.
Bon. Et tous ils font ça.
Oui.
C'est-à-dire que tous, ils disent, quand ce sont des politiques qui sont poursuivis, ils sont toujours poursuivis par ordre du gouvernement. Bon, on dit toujours ça.
Stratégie de défense efficace ou pas?
Stratégie de défense que tout le monde prend.
Vous-même, vous avez dû l'employer un jour ou l'autre.
Oui, mais moi, j'ai pris très rapidement, surtout à partir des années 60, donc à un moment où j'ai été très impliqué dans les affaires qui n'avaient pas le côté exceptionnel, des affaires algériennes, etc. Mais je dirais tout ce qui a été la répression la répression post-gauchiste après le mouvement de mai 68, où j'ai vraiment eu beaucoup d'affaires, j'avais pris l'habitude de toujours dire, moi, je ne proteste pas contre le caractère politique. J'estime que quand la politique est dans un procès, elle y est, eh ben, il faut la prendre comme telle. Nous sommes dans un procès politique, voyons voir effectivement les... C'est tout. Et moi, ça... Bon, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Et je pense que chaque personne qui est accusée, surtout quand c'est un politique, il dit toujours que c'est la faute, que c'est une affaire politique qu'il a contre lui.
Et que c'est pour la battre.
Je pense que le problème qui est posé aujourd'hui, c'est que l'accusation qui est portée, un peu, pas tellement par Mélenchon d'ailleurs, mais par d'autres, l'accusation qui est portée, c'est le caractère, regardez Balkany, regardez en fait quel est le discours de mon ami Éric Dupond-Moretti en ce qui concerne la poursuite contre Balkany. Il dit c'est un truc de juge. Il dit c'est un truc de c'est pas il accuse pas le dirait il ne récuse pas le pouvoir d'ailleurs.
Non.
Bon, il accuse en définitive
des juges d'être politisés.
Un comportement politique des juges.
Oui, voilà. Mais c'est un point...
Justice politique ou justice politisée.
C'est un point essentiel. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que le juge, en fait, était soumis au législateur.
Oui.
Et c'est vrai que dans l'équilibre des pouvoirs,
c'est bon,
c'est cela.
Qu'on dit,
hein. Oui, mais du coup... Dans le cas de Lyon, par exemple, où vous avez un juge qui met en avant sa conviction politique, et encore une fois, pour les meilleures raisons du monde, et je crois que l'état de nécessité doit être plaidé dans certains cas. Mais tout de même, ça pose la question du moment où le juge s'affranchit de la volonté du législateur. Et est-ce que ce n'est pas de plus en plus le cas, d'abord parce que nous avons des empilements de droits qui font que vous avez aujourd'hui la Cour de justice européenne qui est au-dessus du législateur français et qui du coup ajoute une strate qui n'émane pas des citoyens eux-mêmes. Et peut-être aussi, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'il y a aussi une évolution du droit qui est où la jurisprudence devient quelque chose de plus en plus important sous l'influence du droit anglo-saxon, alors que ce n'était pas exactement le cas dans le droit français. Mais ça, c'est une hypothèse.
Maître Henri Leclerc.
C'est un peu vrai. C'est un peu vrai si on regarde, par exemple, le droit de la presse. Moi, je me suis énormément battu sur le problème du droit de la presse et pour la liberté d'expression. Et je me suis beaucoup appuyé...
Vous avez été longtemps l'avocat de Libération, par exemple.
Oui, par exemple. Longtemps, t'as beaucoup appuyé sur les définitions de la Cour européenne de droits de l'homme, qui sont absolument magnifiques. L'interprétation de l'article 10 est une ouverture considérable à la liberté d'expression. Ce qui ne veut pas dire que les juges violent la loi. Simplement, ils lisent la loi et ils peuvent avoir une lecture de la loi en fonction des principes fondamentaux. Or ça, ces principes fondamentaux qui sont inscrits dans la Convention européenne des droits de l'homme, ils ont valeur de loi, ils ont même une valeur supérieure à la loi française. Et ces principes fondamentaux, ils sont interprétés par la Cour européenne pour une fois qu'une juridiction internationale marche.
Mais ils ont une valeur supérieure à la loi française parce que les juges de la Cour européenne l'ont décidé. Ce sont les fameux... Est-ce que je me trompe là aussi ? Mais n'y a-t-il pas eu à un moment donné dans l'histoire de l'Union européenne une décision des juges européens disant que le droit européen prévalait ?
Ça veut dire que...
C'est la question de la démocratie. Est-ce que ce sont les citoyens qui ont voté pour ces lois ?
Oui, mais attendez.
C'est ça la question.
Attendez.
Puis Gilles Finkelstein, et j'aimerais qu'on entende Jean-Luc Mélenchon.
Il y a une disposition dans l'article 55 de la Constitution. La Constitution, elle est bien légale en France. Or, l'article 55 prévoit que les prescriptions des traités internationaux sont supérieures à la loi. C'est mentionné. On ne peut pas faire autrement. Par exemple,
les
dispositions en matière de traité d'extradition européen, un certain nombre de choses qui se posent.
Je voudrais revenir peut-être sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que je peux avoir une lecture politique de ce qui s'est passé. Je sais à peu près. En tout cas, je peux avoir une intuition. C'est-à-dire l'impact. C'est un événement, je crois, qui est très important pour l'image de Jean-Luc Mélenchon, dont les Français ont pu avoir. Juste titre, le sentiment qu'il avait perdu la maîtrise de ses nerfs est très important sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, dont on sentait que depuis plusieurs mois, il y avait une hésitation entre une stratégie de rupture qui est la sienne depuis plusieurs années et une stratégie plus classique de rassemblement de la gauche. Donc là, manifestement, il a choisi. En revanche, j'ai une interrogation sur la lecture judiciaire. Est-ce que, compte tenu de votre expérience, quand une perquisition se passe comme elle s'est passée, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est persécuté ou est-ce qu'il est privilégié ?
Henri Leclerc.
Bon, j'en sais rien. Écoutez, non, mais je vais vous dire, je n'entre pas dans le débat de savoir s'il a raison ou s'il a tort. C'est une affaire qui est en cours de jugement.
C'est pas ce que je dis.
J'aime pas.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'en parle plus d'ailleurs des raisons de la perquisition, du sujet des perquisitions.
C'est pas ma question. Vous avez envisagé tout à l'heure de justice spectacle.
Oui.
Il est évident qu'en ce domaine, Jean-Luc Mélenchon est un maître. C'est-à-dire qu'il a admirablement maîtrisé les canons de la... il les a maîtrisés, je ne sais pas si c'est pour son bien ou pour son mal.
Je ne suis pas sûr, ça lui a échappé.
Mais ceci étant, le problème, bon, on peut dire ce qu'on voudra, vous comprenez, on accuse toujours les juges de SAB. Moi, je me souviens très bien, prenez un cas, vous vous souvenez, le juge Jean-Pierre, qui avait, dans l'affaire Urba, qui s'était attaqué à l'affaire Urba. Rappelez-vous les tollés, le tollé scandaleux, ce juge politique, c'était un peu difficile parce qu'il n'était pas aux ordres.
Parce que c'était une affaire politique justement, financière était, où le Parti
parce
Socialiste
était, pas aux ordres,
était impliqué.
Parce que le pouvoir était à gauche à l'époque. Et donc, bon, mais il y a eu un tollé considérable. Dans l'affaire de Jean-Luc Mélenchon, la perquisition, que je voulais, on ne peut pas protester contre le fait qu'il y ait une perquisition. On peut considérer que cette procédure, d'ailleurs il n'est toujours pas en examen, on peut considérer que cette procédure sur le détournement des fonds européens, mais enfin, je constate que Mme Goulard est appliquée, même si elle n'est pas vraie, qu'un certain nombre de gens sont... Mme Sarnez est impliquée.
Des membres du MoDem, des gens du pouvoir. Des assistants parlementaires.
Entendons-nous. Elle est mise en cause. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. Je suis loin de là. On est allé un peu plus loin en ce qui concerne Mme Le Pen. Puisque là, l'utilisation des fonds européens a été considérée comme un indice de l'existence d'une infraction. Bon, une perquisition, vous avez une mise en cause sur ce sujet-là, une négociation, vous faites une perquisition, c'est pas choquant, les perquisitions dans les partis, il y a même eu des perquisitions à l'Élysée, ça se souvient.
Justice spectacle, c'est intéressant le mot de spectacle parce que c'est très proche, c'est assez proche de ce que disait Jean-Luc Mélenchon vendredi, hier donc, à la sortie du tribunal de Bobigny, écoutez-le.
Les réquisitions fonctionnent pour moi comme une décoration. J'avais raison, ils avaient tort, ils le reconnaissent. Et pour finir, je vais prendre les mots de Cyrano de Bergerac. Rien ne me fera renoncer à l'honneur d'être leur cible.
Ça vous fait sourire, Maître Henri Leclerc, mais la référence à Cyrano de Bergerac.
Vous savez,
oui, vous-même, vous devez.
J'ai tenu des scènes comme celle-là.
Vous aussi, vous avez dû citer des révolutionnaires et des poètes.
Bien sûr. Le problème, c'est
des écrivains.
Mais bien sûr.
Oui.
Et on a toujours. Moi, j'ai toujours essayé de ramener.
Ça marche.
Si, enfin, moi personnellement.
Si une légende du barreau comme vous se pose la question et sourit.
J'ai toujours essayé, par-delà le teuil bohu, de revenir à la raison et à la loi. Bon.
Mais si c'est un spectacle, est-ce qu'il ne faudrait pas filmer les audiences? Parce qu'après c'était un spectacle à l'extérieur, on a vu absolument tout, sauf ce qui s'est passé au moment des audiences.
Mise en place par Robert Badinter, qui avait conclu, où il y avait des grands journalistes, Jean-Marc Théoler, où il y avait le président Braunschweig, où il y avait des gens... Bon, il y avait Myriel Masmarty dans cette commission. On avait conclu à la nécessité de le faire. Et puis... ce projet de réforme n'a pas eu la moindre suite. Bon, si, il y a eu une loi, on a permis de filmer les films qui posent des questions nationales, c'est-à-dire le procès Papon, le procès Barbie, le procès Touvier, enfin un certain nombre de procès.
Mais là, les citoyens gagneraient à pouvoir voir ce qui s'est passé pendant les audiences.
Moi je pense. Oui. Je pense qu'au fond, oui, mais dans cette affaire, c'est extraordinaire, parce que vous avez des faits que tout le monde a vu. C'est-à-dire que c'est extrêmement rare. Ce qui est considéré par une infraction comme le parquet a été filmé, diffusé, maintenant même on a, paraît-il, l'intégralité. Donc le peuple, au nom duquel la justice est rendue, ils ont un sentiment. Ou bien ils estiment...
Mais ce n'est pas au peuple de juger, même si la justice est rendue au nom du peuple français,
Maître Henri
Leclerc.
Au nom du peuple français. Écoutez,
oui, c'est
pas au peuple de juger. C'est vrai que sur ce sujet, nous sommes en retard, y compris sur Athènes, où Laïlé avait 300 citoyens tirés au sort. On n'est pas à ce niveau-là. Nous avons des juges professionnels compétents qui connaissent la loi, parce que c'est l'essentiel d'abord.
Est-ce que vous pensez...
Il reste la loi.
Gilles, Natacha.
Les procès sont publics. Ouais. Non, il ne faut pas dire que... Non, les, procès, les procès sont publics. Et il y avait avant des comptes rendus dans les médias de procès
excellent.
Qui étaient des grands moments.
Bah, il y a toujours des dessinateurs de presse. Aujourd'hui, il y a des live tweets de ce qui se passe.
Oui, mais il y a de moins en moins de
Mais ce n'est pas exactement pareil. En revanche, moi, mon intuition, c'est que si les procès étaient télévisés, je pense que ça serait très ennuyeux. Il faut avoir assisté à un procès. Mais... Les moments qui sont vraiment passionnants dans un procès...
C'était le point que je voulais soulever.
Il fut un temps, où les journalistes suivaient beaucoup les procès. Et je pense particulier à un homme que j'ai beaucoup aimé, beaucoup estimé, qui est Jean-Marc Théolaire, qui était le reporter du Monde. Il arrivait un quart d'heure avant le début du procès. Il partait un quart d'heure après, il allait téléphoner son article qui était déjà fait et qui faisait une page entière du Monde. Chaque fois. Quand c'était un grand procès.
Mais bien sûr.
Bon,
mais
aujourd'hui, nous avons des chroniqueurs judiciaires.
Et il y a
faut reconnaître
des dizaines
que
de tweets.
Robert Diard, ce sont des très
journalistes du Monde.
Mais ils ont un espace limité. Et en fait, ils font une chronique à propos du procès. Ce n'est pas un compte-rendu général du procès.
Ce que vous voulez dire par là, et ça me semble important, c'est peut-être qu'il n'y a plus de pédagogie du droit auprès des Français. Et que peut-être que la publicité des procès, c'est-à-dire le fait qu'ils soient filmés, en effet, je suis d'accord, ce serait certainement très ennuyeux. Les Français s'apercevraient que c'est extrêmement technique, extrêmement ennuyeux, mais peut-être que ça leur permettrait de temps en temps de comprendre justement que le droit n'est pas un spectacle, que c'est beaucoup plus ardu et beaucoup plus subtil qu'il ne peut y paraître
les
dans les comptes rendus médiatiques actuels.
Éric Dupond-Moretti et Jean-Luc Mélenchon,
et c'est beau,
on y
surtout,
a pas
ça peut être passionnant.
C'est un théâtre, enfin bon.
Ça c'est du théâtre.
Bon, on connaît bien ça. Mais ça fait partie de la justice, n'est-ce pas? Le caractère public fait qu'il y a aussi du théâtre. Pour convaincre
il y a de la tension, de l'émotion dans une audience.
Souvent en cour d'assises, parce que, enfin, du moins dans les anciennes cours d'assises, parce qu'il y a les jurés, que devant les jurés il faut faire du théâtre. Mais vous avez la nécessité de faire comprendre que les choses sont compliquées. Elles sont compliquées juridiquement. Je vous ai cité tout à l'heure le procès Tapie. Tapie, il est arrivé, la France entière était convaincue qu'il allait être condamné. Enfin bon, ça paraissait évident. Et puis, au fur et à mesure, les comptes rendus des journalistes ont montré que c'était pas tout à fait aussi simple. La plaidoirie de l'avocat, qui a été pas mal reproduite, qui est Hervé Témime, qui a été pas mal reproduite, a été très efficace. Et finalement, les juges ont estimé que les ordonnances des juges d'instruction, les réquisitions du parquet extrêmement sévères, devait constituer, ne permettait pas de dire qu'il avait
le juge ne doit pas tenir compte des émotions, de l'opinion. On ne peut pas juger quelqu'un devant des millions de personnes, Henri Leclerc.
Mais attendez, pourquoi? Attendez, la justice d'opinion, vous savez bien qu'elle existe.
Non.
Mais attendez, elle existe de fait.
Voilà.
Elle existe de fait. Et
la justice est censée.
Et ça a toujours été le cas.
Prononcer en fonction du droit.
Il faut bien entendu lui opposer toujours la nécessité de la justice officielle, qui a pour fonction de rendre juste la force de l'État. Vous savez, il y a un mot que j'aime bien, c'est un passage de Pascal qui est absolument formidable. Et parle de la justice un peu comme impératif moral, bien sûr, plus que comme... mais ça s'applique. Il dit, il faudrait réussir à mettre ensemble la force et la justice. Et comme on n'a pas pu faire, parce que la force sans la justice est tyrannique, la justice sans la force est impuissante, et comme on n'a pas pu faire que la justice soit forte, on a fait en sorte que la justice fût juste. Que la force fût juste.
Que la force fût juste.
En fond, la fonction des juges, c'est de rendre la force nécessaire de l'État juste. Et ça, juste, c'est d'abord conforme à la loi. Ça,
il reste 2 minutes. Ah bon. Gilles, d'un mot, et j'ai une question pour Maître Henri Leclerc.
Oui, d'un mot, il faut distinguer le spectacle de l'émotion. L'émotion fait partie d'un procès.
Elle fait partie de la justice.
Dans ses mémoires, Henri Leclerc raconte, par exemple,
dans le livre La parole et l'action,
la
que
parole
vous avez
et l'action,
l'année dernière.
Par exemple, dans les différents procès de Roger Knobelspies, comment, par l'émotion, il avait pu à un moment faire basculer, ou je pense à un autre procès que vous évoquez plus récent.
Parce que vous avez fait comme Jean-Luc Mélenchon, vous citez les révolutionnaires.
De Patrick Timsit, dans lequel l'émotion, pas de votre plaidoirie, mais l'émotion de Patrick Timsit lui-même modifie
le jugement.
Ça fait partie, ça.
Oui, mais parce que vous avez fait comme Jean-Luc Mélenchon, vous avez devant des juges cité des révolutionnaires, vous êtes souvent inspiré par Saint-Just, et ça marche pour influencer un juge.
Vous citez Saint-Just.
Donc il a raison, Jean-Luc Mélenchon.
D'abord, ils sont surpris. D'abord, ils sont
de
surpris.
Parler de Robespierre.
Et puis, ils s'aperçoivent que Saint-Just parle bien, écrit bien. Et puis qu'il dit des choses Ben, qu'ils comprennent, parce que depuis la Révolution, les choses qu'a dit Saint-Just, pour prendre le cas de Saint-Just, parce que c'est le plus caractéristique, les choses qu'elle a dit, sont devenues, se sont intégrées petit à petit à la morale républicaine, alors qu'à l'époque c'était vraiment fou. Et donc je pense que l'émotion, vous savez, la rhétorique, hein, il y a trois bases dans la rhétorique. Il y a
devoir rendre l'antenne malheureusement.
L'émotion, tout de même, qui est un peu ennuyeuse, quoi. Mais l'émotion, elle est un élément de la rhétorique classique, de la rhétorique des juges, de la rhétorique essentielle. La raison, bien sûr, la raison, l'émotion et la séduction, c'est les trois bases de la rhétorique, on le dit en latin. Mais je crois que...
Et vous êtes un maître du genre dans les plaidoiries.
Je suis un...
Ne faites pas le faux modeste.
Je suis un vieux maître.
Merci infiniment, en tout cas, Maître Leclerc, d'avoir été notre invité. La parole et l'action, c'est le livre que vous avez publié l'année dernière. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt, à la réalisation, Claire Destacan, à la technique, Roland Mahé. Et quant à moi, je vous dis à demain pour questions politiques. Demain midi, à suivre les secrets d'info de Jacques Monin.